L'éducation buissonnière, une émission qui traite de la transmission culturelle entre les générations, passées et présentes, autrement dit, d'éducation.
Bonjour, alors nous sommes toujours dans le sujet de l'unschooling, autrement dit la non-scolarisation des enfants, et les apprentissages autonomes, pour voir le côté positif des choses. Nous avons entendu il y a 15 jours la première partie de l'interview de Coralie, qui a bien voulu nous parler franchement de son choix de vie, de son choix de ses différentes rencontres, de ses activités avec ses enfants. Et donc aujourd'hui, nous continuons la fin de cette interview de Coralie. Elle nous parle d'abord de son quotidien, et puis de beaucoup d'autres sujets après.
Justement, au quotidien, je voudrais savoir au quotidien comment ça se passe.
Oui, alors bon, nous, comment on fonctionne avec le principe des apprentissages autonomes? On n'a pas un planning établi avec maths le lundi, français le mardi, des horaires très, très précis. Hein. Donc, globalement, le matin, on est quand même souvent à la maison. Et si les enfants ont des questionnements, ça peut venir à ce moment-là. On peut faire des recherches à ce moment-là, c'est plus propice. Ensuite, on organise régulièrement des rencontres avec d'autres familles.
Oui, ça, je pense que c'est important, ça.
Oui, oui, on a un réseau, en fait, hein, en Lozère et en Aveyron. Les deux départements sont groupés pour les réseaux NONSCO. Mmh. Et on organise très régulièrement des rencontres, soit juste pour se voir, pour discuter, pour jouer, soit pour faire des ateliers de bricolage, ou autre, de l'artisanat, etc. Soit plus pédagogique, des visites au musée, voilà, ce genre de choses. Donc ça prend quand même beaucoup de place aussi dans notre vie. Il y a les moments où on invite des amis, mais voilà, juste une ou deux familles où on est invité. Il y a toutes les activités extrascolaires, hein, puisqu'ils font aussi du sport, de l'art plastique, de la musique, hein, etc.
Donc avec les, mettons, avec dans les ateliers municipaux ou alors
le même genre d'activité que font les autres enfants scolarisés, hein. Donc ça peut être avec des foyers ruraux, des clubs de sport, Il y a certaines activités, comme on était plusieurs familles NONSCO à être intéressées, ben, l'intervenant a accepté un créneau pendant le temps scolaire.
Ah oui.
Voilà, par exemple l'art plastique, c'est comme ça que ça se passe.
Oui, c'est bien ça.
Voilà. Oui. Et puis après, vous me disiez les journées, il y a quand même le quotidien qui est... Voilà, les enfants participent au quotidien. Ils sont intégrés dans la vie de la famille et puis la société au sens large. Hein, donc, on fait à manger ensemble, on range ensemble, on fait le ménage ensemble, le jardin. On essaye d'aller discuter aussi avec les voisins, les commerçants. On passe, finalement, la journée passe assez vite avec des choses du quotidien aussi.
Mais le matin, là, qui est quand même un petit peu réservé, entre guillemets, aux apprentissages autonomes, comment ça se passe pour l'enfant? Chacun choisit ce à quoi il veut s'intéresser ou comment ça se passe?
Alors, oui, je disais que le matin, je suis un peu plus disponible, puisque souvent on est à la maison, mais en fait c'est pas spécialement le matin, ça peut être l'après-midi, le soir, le week-end. À un moment donné, l'enfant me dit, par exemple, je voudrais savoir comment ça marche les multiplications. Alors là, eh bien, je dis ce que je sais, on fait des dessins sur des feuilles quadrillées, on va voir sur internet, bon, bien évidemment j'explique la technique de poser une multiplication, mais c'est pas le plus important, on essaye de comprendre le concept. Voilà, et on peut discuter toute la matinée de ça.
Ah oui.
Voilà. Ouais. Et ensuite, moi j'ai ça en tête que dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, je vais fournir de la nourriture à ce sujet. Donc on va peut-être poser la question à quelqu'un d'autre qui aura une autre façon d'expliquer, qui conviendra peut-être mieux à l'enfant. On va aller voir, on va aller chercher des livres à la bibliothèque. Voilà. Après, ils ont aussi, mes enfants en particulier, hein, c'est pas forcément comme ça dans toutes les familles, ils ont chacun leur petit bureau dans la pièce de vie.
Ouais.
Et il y a aussi la grande table familiale j'ai remarqué quand ils voulaient faire du travail plutôt scolaire, ils avaient envie de se mettre sur la grande table. C'est plus... voilà. Et leur petit bureau, alors ils ont tout un tas de cahiers, d'activités qui passent du cahier de coloriage, de points à relier, de choses comme ça, à des cahiers un peu plus scolaires qu'ils ont choisis eux-mêmes.
Oui, ah oui.
Voilà. En fait, mes enfants ne séparent pas le scolaire et le ludique. Par exemple, quand on va dans une librairie choisir un cahier, ils ont tout à fait la possibilité de choisir un cahier de coloriage ou un cahier d'addition. Et ils choisissent parfois le cahier d'addition. Ça surprend énormément les autres parents. Parce que pour eux, c'est pas une corvée, en fait, d'apprendre.
Oui. L'école ne les a pas encore dégoûtés des apprentissages, en fait.
Donc là, j'ai une de mes filles qui adore faire des additions et j'arrive presque pas à suivre. Je lui fais des pages entières d'additions. on prend des cahiers d'additions à la librairie. Elle n'arrête pas. Elle invente des additions. Elle additionne tout. Tout ce qu'elle peut additionner, elle l'additionne, par exemple.
Oui. Voilà. Ça me rappelle les périodes sensibles de Maria Montessori, en fait. Enfin, elle en parle pour les petits, mais c'est pareil après.
Oui.
Il y a des moments où l'enfant est vraiment attiré par quelque chose, voilà. Sensible à quelque chose.
Oui.
Et tant qu'il ne l'a pas maîtrisé, il a besoin de...
Oui, c'est ça.
Et puis, tout d'un coup, ben, ça s'arrête parce que ça y est, il a tout compris, il passe à autre chose.
Exactement.
Je pense que...
Et c'est vraiment un retour que j'ai régulièrement. On me dit, mais si tu ne les forces pas à faire des additions, des multiplications, etc., comment ils en feront jamais? Et en fait, moi, je peux vraiment témoigner qu'au contraire, si je ne les force pas, l'intérêt vient de lui-même à un moment donné. Et quand il vient, c'est impressionnant.
Oui,
hein,
parce que, c'est ça, ouais.
C'est magique, moi. Ça me conforte dans notre choix de base de voir que cette petite étincelle d'apprendre, elle est toujours là, quoi. Même à 9 ans, 11 ans, et c'est assez merveilleux.
Et comment ça se passe pour la plus grande? Elle a quel âge?
Elle a 11 ans.
Elle a 11 ans?
Oui.
Comment? Donc elle est à l'âge du collège, en fait.
Oui, elle est à la limite, enfin, comme elle est née en fin d'année, effectivement, mais elle est au niveau collège, là.
Oui.
C'est le même pour nous, comme on n'est pas, on suit pas les programmes par choix. Il n'y a pas une limite tout à coup à la fin du CM2.
Mmh, ouais.
Ça vient progressivement. C'est la même chose en fait. On nourrit les intérêts.
Oui, c'est
voilà.
Mais tous les ans, il y a un contrôle pédagogique.
Oui.
Je ne parle pas de la mairie, mais le...
Oui.
Et comment ça se passe pour vous, alors?
Alors, au niveau, donc, effectivement, réglementaire, on est tenu de déclarer l'instruction en famille de nos enfants entre 6 ans et 16 ans à l'inspection d'académie et à la mairie du lieu de résidence. Et ensuite, il y a un contrôle pédagogique une fois par an, en général, qui est effectué par l'inspection de circonscription.
Oui.
Voilà.
Et comment ça se passe pour vous concrètement?
Alors, les inspecteurs sont tenus de vérifier qu'on répond au droit à l'instruction de nos enfants. Donc, c'est-à-dire qu'ils aient une instruction. Voilà. On doit justifier que nos enfants sont instruits et qu'ils progressent chaque année. Donc, c'est pour ça qu'ils reviennent tous les ans pour vérifier qu'il y a une progression d'une fois sur l'autre et que cette progression les amène à saisir en fait l'ensemble des compétences du socle commun.
Ah oui, donc quand même, il y a quand même entre guillemets un programme. Enfin, le socle commun, c'est...
Oui, ben, le socle commun, c'est le même que celui pour les enfants scolarisés, sauf que dans les écoles, les enseignants ont un programme annuel. Chaque compétence est décomposée et doit être... apprise à tel âge, par exemple. Mmh. Alors que nous n'avons pas l'obligation de respecter les âges. Mmh. C'est l'ensemble des compétences qui doit être acquise à 16 ans.
Ah oui, d'accord. Voilà. Donc il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de... Donc, y a pas de... Oui, mais alors on comment ils peuvent tous les ans contrôler que les compétences sont acquises?
Alors, en fait, ils doivent vérifier la progression. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Un enfant qui justement s'est additionné mais il n'y arrive pas avec les retenues.
Oui.
Une année, l'année suivante, ils peuvent constater que ça y est, il a appris comment on faisait avec les retenues.
Oui. Oui, d'accord.
Pareil, sur la lecture, ça peut...
Oui, la lecture, c'est assez facile à...
Se vérifier, la progression. Ouais, ouais. Voilà, c'est la progression qui doit être vérifiée.
Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans. Je suis en CM2 à Épinay. Ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, y a plein de bruit. Moi, dans ma classe, on est 29. Y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi, en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16h, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant, ma maîtresse, je l'aime bien. Elle peut être dure, mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est pas chiante. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties. Mais on a que 2 quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous, on a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut ajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à 2 balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants? L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Y a pas d'éducation nationale avec des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère. Et l'égalité des chances, un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Ça, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac. C'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac.
Et même au niveau du collège aussi, enfin quand même.
Oui, alors la différence qu'il y a au niveau du collège, c'est que c'est plus les inspecteurs de circonscription, mais c'est les personnes du rectorat qui viennent.
Ah,
voilà.
Ouais, d'accord.
Mais c'est toujours le même principe, hein, c'est la progression. Ils peuvent céder des attendus de fin de cycle, qui sont tous les 3 ans, pour avoir une idée de là où se situe l'enfant.
Oui, quand même, oui.
Voilà, ça c'est nouveau, c'est depuis 2016, il y a cette possibilité pour les inspecteurs.
Oui, j'ai vu qu'il y avait un nouveau décret en 2016, oui.
Oui, c'est ça.
Ah, et est-ce que les gens qui font l'inspection sont bienveillants? Comment ça se passe?
Sujet sensible.
Parce que j'ai lu dans le site d'une des associations que 90% des parents étaient mécontents des contrôles.
Oui.
Et donc je voulais savoir un peu...
Oui, c'est vrai que sans parler de personnes en particulier, la plupart des personnels sont dans une démarche bienveillante de toute manière. La difficulté, c'est de s'entendre. Puisqu'on a l'impression parfois de parler 2 langages différents.
Ah oui.
Et les familles, on va dire que les familles qui pratiquent les apprentissages autonomes en particulier, préféraient que les contrôles soient effectués par des personnels indépendants de l'éducation nationale, puisque ça nous paraît difficile que des personnes qui évaluent des enseignants, qui travaillent à partir du programme et des évolutions de l'éducation nationale, puissent avoir un regard neutre, objectif, sur des façons de fonctionner différentes.
Et oui, c'est sûr.
Voilà. Donc ça, c'est une demande des associations, d'ailleurs, nationales, que ça puisse être effectué par d'autres organismes indépendants.
D'accord. Et je voudrais savoir comment vous voyez l'avenir de vos enfants. L'avenir professionnel. Hein.
Oui, d'accord. Eh bien, oui, c'est une grande question.
Ah, je suppose, oui.
Oui, oui. J'essaye de ne pas avoir de projection. Ça, c'est une première chose. Mmh. Ça fait partie de mes choix éducatifs aussi. Mmh. Et je pense que dans la question de la non-éducation là, que vous avez abordée, les parents qui sont dans cette philosophie ont aussi cette idée que je ne projette pas sur mes enfants, mes envies, voilà, mon enfant. Ce que je souhaite pour l'avenir de mes enfants, c'est qu'ils puissent avoir confiance en eux, en leurs compétences, qu'ils puissent être en relation harmonieuse avec leur environnement proche, plus lointain, et qu'ils puissent savoir rebondir dans la vie pour trouver peut-être la voie qui va leur correspondre. J'ai pas d'attente sur un métier en particulier, ça c'est évident. J'ai l'attente éventuellement, j'aimerais bien pour eux qu'ils puissent aimer ce qu'ils font, ou en tout cas s'ils aiment pas, arriver à s'écouter pour changer un petit peu de voix et aller vers ce qui serait le mieux pour eux, quoi.
Mais est-ce que vous n'avez pas peur, que ce type de choix de vie les entraîne eux aussi dans les entraîne dans un choix de vie un petit peu parallèle, qui ne serait pas forcément le leur. Enfin, c'est pas une critique, mais j'ai peur que ça ferme aussi, comme quand on va à l'école et qu'on est bien dressé, ça ferme aussi certaines portes.
Oui, qu'ils arrivent
à l'opposé.
Pas,
qu'ils n'arrivent peut-être pas à s'insérer
dans un milieu professionnel.
Dans un milieu professionnel, oui. Mais peut-être que ce ne sera pas leur choix. Mais...
Eh bien, moi, je pense qu'en leur laissant justement la possibilité de choisir eux-mêmes, ça laisse la possibilité d'aller vers des choix très classiques ou alternatifs. En tout cas, les livres que j'ai lus, les témoignages que j'ai entendus d'enfants non scolarisés, me font pas peur, en fait. Ne me font pas peur, au contraire. Je vois que tout est possible dans les choix professionnels par la suite. Il y en a qui deviennent docteurs, par exemple, ou enseignants même. Et après, bien sûr, il y a des choix plus l'artisanat, l'art, etc. Voilà, il y a de tout. Et au-delà du métier en soi, ce que je vois surtout, c'est des enfants et des adultes épanouis.
Oui, c'est ça. Et puis qui peuvent s'adapter, en fait.
Adaptable.
Adaptable.
Voilà. Sain, j'ai envie de dire.
Oui.
Et à ce sujet, il y a un livre très intéressant. C'est le livre de André Stern, qui s'appelle « Et je ne suis jamais allée à l'école ».
Arnaud Stern.
André, c'est le fils de
Arnaud. Ah non, parce que Arnaud Stern, ça je le connais bien.
Et bien André est le fils de Arnaud.
Excusez-moi, d'accord.
Et lui et sa sœur ne sont jamais allés à l'école.
Mais je crois qu'Arnaud Stern, j'ai lu dans un article qu'il était lui non plus n'avait jamais été à l'école.
Ah oui, et bien alors, en tout cas, André témoigne dans son livre.
D'accord, bah écoutez, c'est un... Je ne suis jamais allée à l'école.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Oui, c'est très intéressant.
Bien. Ben, je crois qu'on est peut-être arrivé. Si vous avez d'autres choses à me dire.
Il y a quelque chose qui me paraissait intéressant, mais en fait, j'ai pas pensé à le dire au début. Dans les raisons de notre choix, finalement, il y avait aussi la façon de communiquer avec les autres, la façon d'être en relation avec les autres.
Oui.
On avait envie d'éviter quelque chose, de montrer. Le modèle dominant qui est un petit peu le modèle de l'obéissance-soumission. Montrer qu'il est possible de communiquer avec les autres en exprimant soi-même ses besoins, savoir écouter les besoins des autres, savoir poser des limites, savoir entendre les limites des autres Et malgré cela, pouvoir quand même trouver une solution ensemble. Mmh. Et ça marche dans la relation duelle, ça marche dans la relation de groupe, dans la société en général. Montrer qu'on peut grandir, construire des choses ensemble, sans être forcément nécessairement dans un modèle de compétition.
Oui, de domination.
De domination. Fait, oui. Bien qu'on peut accepter, dans certaines situations, rentrer dans un système de compétition, pourquoi pas. Mais il existe autre chose. Et c'est tellement peu montré cette autre possibilité que pour nous, c'était important. Voilà.
D'accord, ouais, merci beaucoup.
Merci,
merci Coralie, c'était très intéressant.
Merci Laurence.
L'éducation buissonnière, une émission qui traite de la transmission culturelle entre les générations, passées et présentes, autrement dit, d'éducation.